Session Être et vivre entre l'univers et l'homme. Deuxième cours, le mouvement naturel. En entrant dans le mouvement naturel proprement dit, il est bon de revenir à la matière pour comprendre que l'alliance entre le mouvement et la matière engendre la vie. La matière est vivante. Elle est vivante dans une forme qui est un sujet, mot choisi par Aristote. Un objet, dirait-on, dans notre vocabulaire d'aujourd'hui. Pour l'homme, la matière est dans le corps, matière du corps. Quand la matière, à l'état de nature, ou pour reprendre une expression, dans son état sauvage, elle semble ne plus être vivante. Pourrait-on dire qu'elle est morte? Pas du tout, car elle demeure vivante, mais selon un autre état, non de transformation en vue d'une nouvelle forme, mais de décomposition. Cette décomposition est toutefois une transformation qui est un retour à la nature elle-même. Cette vie de la matière, cette vie de la nature, s'opère par l'action du mouvement. En effet, la matière existe par la forme, dans le mouvement, et le mouvement existe dans et par la matière. L'un et par l'autre. Donc, la matière est cause matérielle du mouvement qui lui-même est une propriété de la nature, puisque la nature, pour être nature, réclame le mouvement. La matière est indissociable de la forme qui ne peut exister sans la matière. La forme existe par la matière, et pourrait-on ajouter, par l'intermédiaire du mouvement dans la matière, lui-même issu du mouvement de la nature, donc du mouvement naturel. La matière est inhérente à la nature, de même que le mouvement est inhérent à la matière. Cette trilogie, matière, mouvement, nature implique un ordre entre ses composantes. Nous pouvons profiter de cette trilogie pour en proposer une autre, distincte du thème abordé dans ce chapitre sur le mouvement naturel. La pensée humaine est relative au mouvement. Elle l'est à une matière précédant le mouvement. De fait, la pensée a son point de départ dans le corps de l'homme, qui est matière. Or, la pensée de l'homme spirituel est relative à l'être, quand l'intelligence est en acte, au-delà de la matière. Nous sommes là, face à une autre trilogie. Pensée, intelligence, être, dont les composantes impliquent aussi un ordre entre elles. Cet ordre permet à l'homme de comprendre qu'il est une personne et que c'est la découverte de la personne qui l'engagera à découvrir ce qu'il est, à se perfectionner en distinguant ce qui relève de l'être et ce qui relève de la vie. Entre ce qui caractérise notre être, notre exister, et ce qui caractérise notre vie. Cette distinction entre être et vie est nécessaire pour comprendre à la fois l'ordre dans cette trilogie et la place de la pensée face à l'être. Le mouvement de la pensée se situe donc à deux niveaux. À l'ordre de ce qui est, donc à l'être, pour la part supérieure de l'esprit détaché de la matière, et à l'ordre de ce qui est mu, donc au mouvement naturel, pour la part inférieure de l'esprit lié à la matière. Quittons cette analogie pour entrer dans le mouvement naturel. Premièrement, l'expérience du mouvement naturel. Quelle expérience avons-nous du mouvement naturel ? Le mouvement naturel caractérise le mouvement existant dans la nature, un mouvement incessant. Or, nous observons que le mouvement diffère selon les réalités naturelles. Des êtres se meuvent et d'autres sont mus. Il est donc nécessaire de faire la distinction entre ce qui se meut et ce qui est mu. Ce qui se meut est en mouvement par soi-même, tandis que ce qui est mu est en mouvement par un autre. Dans la nature, seul le vivant se meut par lui-même. C'est donc la question que le philosophe se pose dans ce second chapitre sur la nature. Qu'est-ce que le mouvement naturel ? Toute recherche philosophique réaliste part de l'expérience, de quelque chose qui nous est donné dans l'expérience à l'aide de nos sens. En nous promenant dans la nature, nous pouvons observer la chute de l'eau d'un torrent qui lui-même a creusé son lit au fil du temps. En automne, dans les bois, les châtaigniers laissent tomber leurs châtaignes au risque d'ailleurs d'être piqués en les recevant. Quand le vent souffle, il entraîne les feuilles mortes avec lui, comme les pollens qui fertiliseront les plantes ou les graines qui germeront. Sans cesse, nous faisons l'expérience du mouvement naturel qui nous est donné sur cette terre dans laquelle nous vivons. Le mouvement naturel nous est communiqué par les sensibles propres et les sensibles communs, d'où l'aspect qualitatif par l'action d'un seul sens et l'aspect quantitatif par l'action de plusieurs sens conjugués. Étudier le mouvement naturel, c'est, partant de l'expérience, comprendre que le mouvement et la nature sont radicalement liés. Par la matière, la nature matière précède le mouvement. Ce qu'Aristote nous livre dans sa physique. Puisque la nature est principe du mouvement et de changement, et que notre recherche porte sur la nature, ce qu'est le mouvement ne doit pas nous échapper. Car si on l'ignore, on ignore nécessairement aussi la nature. En outre, sans le lieu, le vide et le temps, le mouvement est impossible. Voilà ce que dit Aristote. Aristote met en évidence la question du temps et du lieu, de l'espace avec le vide, permettant au changement de s'opérer dans le mouvement. Par le mouvement, la nature se transforme. Comme par le mouvement, l'artiste transforme la matière et lui donne une forme, une nouvelle forme. S'agissant du passage de la forme naturelle à la forme donnée par un agent extérieur, par l'artiste ou l'artisan, cette nouvelle forme est donc artificielle, puisque venant de la main de l'homme. Nous avons abordé cette distinction entre la forme naturelle et la forme artificielle au chapitre précédent. Toutefois, nous constatons que le mouvement naturel s'inscrit dans la matière qui elle-même subit une succession de formes. Passage d'une qualité à une autre qualité impliquant la durée dans le mouvement. La succession du temps et du lieu. Par contre, le mouvement artificiel provient de la pensée de l'homme, de l'idéa de l'artiste. Nous assistons donc au mouvement de l'esprit sur la matière et au mouvement de la nature sur la matière. Ce que nous regardons maintenant dans l'étude du mouvement naturel, c'est l'action propre de la nature avant toute intervention humaine. Mais l'homme cherchant sans cesse à s'approprier l'univers, à devenir maître et possesseur de la nature, selon l'expression de Descartes, il doit s'interroger sur ce qu'est cet univers qui lui est donné, qui ne vient pas de lui, qui a son mouvement propre et son harmonie. Ce n'est pas l'homo faber qui intéresse le philosophe. C'est la nature elle-même et son mouvement propre, ce qui nécessite de distinguer le mouvement naturel et le mouvement artificiel. Le mouvement naturel, c'est l'eau du torrent qui s'écoule. Le mouvement artificiel, c'est l'eau qui vient d'un système d'irrigation ou c'est l'eau chaude venant d'un cumulus. Le mouvement est inhérent à la nature elle-même, donc à la matière qui elle-même subit l'effet d'une autre matière. Car la nature est matière dans sa complexité et son indétermination, d'où le terme de nature-matière et de nature-forme, puisque la matière réclame la forme et dans l'univers physique, la forme naturelle. C'est cette succession de matière et de forme dans l'ordre naturel qui fait que le mouvement naturel provient de la nature-matière et de la nature-forme. C'est en ce sens qu'Aristote dit que la nature et principe du mouvement et de changement. Qu'est-ce que le mouvement? Pourquoi le mouvement? Dans le mouvement et par le mouvement, la réalité passe d'un état à un autre état en prenant une nouvelle forme. D'où un changement qui est une transformation dans l'ordre de la qualité, qualité en plus ou qualité en moins. Par le mouvement, la réalité devient. Elle reste elle-même, mais devient autre. C'est le devenir. C'est l'être et le devenir. Le mouvement naturel et dans une réalité en devenir continuel. Sauf quand l'homme transforme la matière d'une manière telle qu'il la bloque dans sa transformation, qu'il la fige, volontairement ou involontairement d'ailleurs. Le torrent creuse son lit, il devient. L'arbre perd ses feuilles en automne, puis les retrouve au printemps. Le mouvement, c'est le devenir de l'être par le passage d'une détermination à une autre détermination. Car la forme détermine la matière qui est par nature indéterminée. C'est le passage d'une cause à un effet. Après la sécheresse, la pluie rend les prés verdoyants, fait pousser les plantes, et trop de pluie risque de noyer la végétation par un pourrissement de la matière. Comme l'eau cause une érosion en faisant peu à peu pourrir le bois. Il y a une cause et un effet. Le mouvement caractérise ce passage d'une cause à un effet, d'où une succession de causes et d'effets dans l'ordre naturel. Par conséquent, dit Aristote dans sa Physique, ce qui meut naturellement est aussi mobile. Car toute chose de cette sorte meut en étant mue aussi elle-même. Il semble à certains que tout ce qui meut est mu, mais à ce sujet, on verra par d'autres arguments ce qu'il en est. Car il y a quelque chose qui meut et qui est immobile. Mais l'acte de ce qui est en puissance, quand étant en acte, il est en acte, non en tant que lui-même, mais en tant que mobile, c'est le mouvement. L'acte de ce qui est capable, en tant que capable, il est manifeste que c'est cela, le mouvement. Et l'acte du constructible, en tant que constructible, est la construction. Aristote ajoute dans la Physique « Et ce qui était embarrassant devient clair. Le mouvement est dans le mobile, car il est l'acte de celui-ci sous l'action du moteur. » Fin de citation. Cela signifie que la matière étant en vue d'être transformée par la forme, le mouvement agit dans la réalité matérielle en mouvement. Le mobile, que cite Aristote, subit l'action du moteur, cause du mouvement. C'est le moteur qui est cause du mouvement et, enfin, le moteur immobile, le premier moteur, cause des causes du mouvement naturel. Ce qui est mu est en puissance. Ce qui est en acte, cause du mouvement. Aristote dit dans sa Physique. En outre, on a défini que ce qui est mu, c'est le mobile. Or, celui-ci est le mu en puissance, non en acte. Mais ce qui est en puissance va vers l'acte. Et le mouvement est l'acte inachevé du mobile. En revanche, ce qui meut est déjà en acte. Par exemple, le chaud réchauffe. Et en général, ce qui possède la forme engendre. Fin de citation. D'où ce qui meut est le moteur, cause du mouvement, de ce qui est mu, le mobile. Pour expliquer la nature du mouvement immanent à une réalité qu'il désigne par un mobile, partant de l'expérience, Aristote nous conduit progressivement à la nécessité de poser la puissance et l'acte. La puissance est la capacité d'être ce pourquoi la réalité est faite, sa finalité, sa détermination. elle précède l'acte dans l'ordre génétique et à l'inverse. L'acte précède la puissance dans l'ordre de la perfection. Puis, par l'acte, Aristote nous fait comprendre la nécessité de poser un premier moteur immobile, cause première du mouvement du mobile. Qu'est-ce que l'acte ? Pour la vision, la vue est l'acte de la capacité de voir, de ce qui est en puissance de voir, mais qui ne voit pas encore. L'acte est la finalité, ce en vue de quoi ce qui est en puissance d'être. L'intelligence est en acte quand elle cherche la vérité et qu'elle tend vers elle. Une réalité est en acte quand elle atteint ce pourquoi elle existe. La puissance est la capacité d'être en acte. La capacité de voir pour la vue. La capacité de chercher la vérité pour l'intelligence. En philosophie de l'être, philosophie première ou métaphysique, l'être en puissance est finalisé par l'être en acte, répondant ainsi à la question ultime « En vue de quoi l'être ?» Citons un autre texte de la physique où Aristote analyse le mouvement naturel impliquant la matière, le lieu et le temps. Tout ce qui change, change soit par accident, comme lorsque nous disons le musicien marche, parce que ce à quoi il appartient d'être musicien, cela marche. Soit quand on dit qu'une chose change absolument du fait que quelque chose d'elle change, par exemple, tout ce qu'on dit d'après les parties, le corps guérit parce que guérit l'œil ou la poitrine, et que ce sont des parties du corps entier. Mais il y a quelque chose qui n'est mu ni par accident, ni parce que l'une de ces parties change, mais du fait d'être mu soi-même immédiatement. C'est là le mobile par soi. Il en va de même pour le moteur. L'un meut par accident, l'autre partiellement, du fait d'une de ses parties. L'autre, enfin, par soi immédiatement, comme le médecin guérit et la main frappe. Et puisqu'il y a quelque chose qui meut immédiatement, il y a aussi quelque chose qui émue. En outre, ce dans quoi cela émue, à savoir le temps, et à côté de cela, ce d'où et ce vers quoi, car tout mouvement va de quelque chose vers quelque chose. On distingue en effet ce qui émue immédiatement, ce vers quoi c'est mu et ce à partir de quoi, par exemple le bois, le chaud et le froid. De ceci, l'un est ce qui est mu, l'autre ce vers quoi, et l'autre encore ce à partir de quoi. Il est bien clair que le mouvement est dans le bois, non dans la forme. Car la forme ne meut ni n'est mue, pas plus que le lieu ou la quantité, mais il y a ce qui meut, ce qui est mu et ce vers quoi il est mu. En effet, le changement reçoit son nom de ce vers quoi il y a mouvement plutôt que de ce à partir de quoi. Fin de citation. Plus loin dans la physique, Aristote commente la relation entre la puissance et l'acte dans le mouvement naturel. Voici ce que dit Aristote. Il est important de voir la vérité, non seulement pour l'étude de la nature, mais aussi pour la recherche concernant le principe premier. Nous affirmons que le mouvement est l'acte du mobile en tant que mobile. Il est donc nécessaire qu'existent d'abord les choses susceptibles d'être mues selon chaque mouvement. Et même sans la définition du mouvement, tout le monde reconnaîtrait que nécessairement est mu ce qui a la puissance d'être mu selon chaque mouvement. Par exemple, est altéré ce qui est altérable, transporté ce qui peut changer de lieu, de sorte que le brûlable doit exister avant d'être brûlé, de même que le brûlant avant de brûler. Dans ce texte, Aristote nous dit que la matière est en mouvement dans une réalité qui est en puissance de devenir ce pourquoi elle est faite, selon la disposition qu'elle possède en vue d'être transformée. D'où une nouvelle question. En quoi est le mouvement ? Le mouvement naturel s'enracine dans un sujet, une réalité, donc dans une matière et une forme, puisque la matière est ce qui est capable d'être transformé. La forme prend deux dimensions dans le mouvement, la forme antérieure et la forme postérieure, puisque tout mouvement partant d'une forme donne une nouvelle forme dans la succession du temps et du mouvement. Donc, dans le mouvement apparaît deux formes contraires et une cause, la matière. Dans le mouvement naturel, étant donné l'immanence de la forme dans la matière, c'est la matière qui apparaît en premier lieu. Tandis que dans le mouvement artificiel, du fait de l'action d'un agent extérieur, c'est la forme qui domine la matière. Il n'y a pas de domination dans la nature, contrairement à l'art, mais une harmonie entre matière et forme, la matière étant pour la forme. Comment le mouvement se réalise-t-il ? Nous avons constaté la primauté de la matière sur la forme selon l'antériorité, donc la causalité matérielle sur la causalité formelle. Cette nouvelle question met en évidence une autre causalité, la cause efficiente. Quel est l'effet de la matière en mouvement ? C'est la question du devenir. Par le mouvement, la matière est en devenir. Sans le mouvement, il n'y a pas de devenir. C'est donc le mouvement qui implique le devenir. Or, dans l'ordre du devenir, la puissance est antérieure à l'acte. La puissance qui est une capacité est en devenir par le mouvement. Dans l'histoire de la philosophie, la relation entre le mouvement et le devenir est le fondement de la dialectique hégélienne par l'esprit, puis de la dialectique matérialiste par la praxis dans la philosophie de Marx. La praxis étant le devenir de la matière transformé sur l'être de l'homme. Pour Marx, la matière en devenir dans le mouvement est cause et principe de la vie humaine, réduisant ainsi l'homme à l'homme travailleur. Nous assistons là à deux grandes déviations successives dans l'histoire de la philosophie. Toutes deux enferment l'être dans le devenir. La première, en une forme de théologie de l'esprit, la seconde en une réduction de la cause finale à la cause matérielle. Dans la dialectique marxiste, l'homme transformant la matière transforme sa propre nature. Le philosophe regarde l'univers en tant que ce qui est mu et le vivant en tant que ce qui se meut. Ce qui est mu est en mouvement immanent, impliquant des causes et des effets. Cause matérielle, cause formelle, cause efficiente et cause finale. Ces quatre causes que nous aborderons dans un chapitre suivant selon un ordre propre à une philosophie de la nature. Dans son regard sur l'univers en mouvement, que découvre le philosophe en premier? C'est la nature matière, unie à la nature forme, et l'action immanente du mouvement faisant passer l'indétermination de la matière à sa détermination naturelle. C'est la matière qui fait comprendre le caractère propre du mouvement, puisque c'est la matière qui, sous l'effet du mouvement, change d'état, se transforme, se qualifie en plus ou en moins. Il suffit d'observer les effets du froid, de la chaleur, des tempêtes sur la matière en devenir, en mouvement incessant, pour constater les transformations subies par l'univers. Il ne s'agit pas là d'une action directe ou indirecte de l'homme, mais bien de la nature sur elle-même et en elle-même. D'ailleurs, le mot « nature » est souvent employé à défaut. La nature n'est pas synonyme d'univers physique ou de la planète Terre. Quand on dit « c'est ma nature » ou « la nature de telle chose » ou « de tel animal » ou « la nature humaine », le terme « nature » signifie pas une réalité, mais bien quelque chose dans la réalité qui fait qu'elle est ce pourquoi elle est faite, ce pourquoi elle existe, donc quelque chose de premier dans l'ordre de la vie. Aristote désigne ce que signifie la nature, inscrit le terme de nature dans l'immanence du mouvement naturel. Ce vers quoi quelque chose ou quelqu'un est porté naturellement. Parce que cela est inscrit dans sa nature. Dans la physique, il définit la nature du mouvement en distinguant ce qui est mu de ce qui se meut par nature et ce qui n'est pas par nature, par contrainte, et contre nature. Parmi les choses qui meuvent et qui sont mues, dit Aristote, les unes meuvent et sont mues par accident, les autres en elles-mêmes. par accident, par exemple, toutes celles qui le font parce qu'elles appartiennent aux choses qui meuvent et sont mues, et celles qui le font en une de leurs parties. En elles-mêmes, toutes celles qui ne le font pas parce qu'elles appartiennent à un moteur ou à un mu, ni parce que l'une de leurs parties meut ou est mue. Parmi les choses mues en elles-mêmes, les unes le sont sur leur propre action, les autres sous l'action d'autres choses. Et les unes par nature, les autres par contrainte et contre-nature. En effet, ce qui est mu soi-même sous sa propre action est mu par nature, comme chacun des animaux, car l'animal est mu lui-même sous sa propre action. Et toutes les choses qui ont en elles le principe du mouvement, nous disons qu'elles sont mues par nature. C'est pourquoi le tout de l'animal se meut lui-même par nature, quoique son corps puisse être mu à la fois par nature et contre nature. Cela dépend de quel mouvement il se trouve mu et de quel élément il est constitué. Et parmi les choses mues sous l'action d'autres choses, les unes aussi sont mues par nature, les autres contre nature. Contre nature, comme les choses terrestres vers le haut et le feu vers le bas. Et en outre, les parties des animaux sont souvent mues contre nature, contre leur position et leur mode de mouvement. Et le fait que le mu soit mu sous l'action de quelque chose est manifeste surtout dans les choses mues contre nature, parce qu'il est clair qu'elles sont mues sous l'action d'autre chose. Parmi les choses mues sous l'action d'autre chose, nous avons établi que les unes sont mues contre nature, et il reste à établir qu'au contraire, les autres sont mues par nature. Ce sont celles-là qui présenteraient la difficulté de savoir sous l'action de quoi elles sont mues. Dire en effet qu'elles se meuvent elles-mêmes sous leur propre action est impossible, car c'est le propre du vivant et des êtres animés. En outre, comment quelque chose de continu et d'homogène peut-il se mouvoir lui-même? Donc, aucune de ces choses ne se meut elle-même, car elles sont homogènes, ni rien d'autre de continu, mais il est nécessaire qu'en chacune le moteur soit distinct du mu. Comme nous le voyons dans les choses inanimées, lorsque l'émeut un des animés. Mais il se fait qu'elles sont aussi toujours mues sous l'action de quelque chose, et cela deviendra manifeste si l'on distingue les causes. Ainsi donc, le feu et la terre sont mus sous l'action de quelque chose, par contrainte quand c'est contre nature. Par nature, quand, étant en puissance, elles vont vers leurs propres actes. Mais puisque en puissance se dit de plusieurs façons, c'est la raison pour laquelle il n'est pas manifeste de savoir sous l'action de quoi les choses de cette sorte sont mues, par exemple, le feu vers le haut et la terre vers le bas. Dans cette longue citation, Aristote montre que le mouvement naturel implique l'action de la nature et parfois de l'action contre nature. Quand les actes posés le sont en sens contraire, de cette analyse où préexiste la matière, donc qui implique un devenir foncier et formel, il est nécessaire que tout ce qui est mu soit mu par un autre. Ce qu'Aristote développe quand il étudie la nature dans la génération, au livre 7 de la métaphysique. Je cite Aristote. Parmi les choses qui sont engendrées, les unes sont des productions de la nature, les autres de l'art, les autres du hasard. Tout ce qui devient, devient par quelque chose, de quelque chose, quelque chose. Les générations naturelles sont celles des êtres qui sont engendrés par la nature. Ce dont un être provient, nous l'appelons la matière. Ce par quoi il est produit, c'est un être qui existe naturellement. L'être produit, c'est un homme, ou une plante, ou quelque autre chose de cette sorte. Et ce sont ces êtres que nous appelons principalement des substances. De plus, tous les êtres qui sont engendrés, soit par la nature, soit par l'art, ont une matière, car chacun d'eux est capable à la fois d'être et de ne pas être. Et cette possibilité, c'est la matière qui est en lui. D'une manière générale, ce dont les êtres viennent est nature. Et la forme suivant laquelle ils sont produits est aussi nature, car l'engendré a une nature, comme la plante ou l'animal. Enfin, ce par quoi la génération se fait est également nature. Mais la nature prise au sens de forme est spécifiquement identique, quoique résidant en un autre être. Car c'est l'homme qui engendre l'homme. Ainsi donc, comme nous le disons, le devenir est impossible si rien ne préexiste. Qu'une partie de l'être produit doive donc nécessairement préexister, c'est évident. Car la matière est une partie, puisqu'elle est le sujet immanent du devenir. Fin de citation. De là, l'ordre de ce qui est mu nécessite un premier. Qu'Aristote désigne dans la physique. Je cite Aristote. Si donc il est nécessaire que tout ce qui est mu soit mu par quelque chose, et que ce soit ou bien par un autre mu, ou bien non, et que si c'est par un autre mu, il y ait nécessairement un premier moteur qui ne soit plus mu par autre chose, tandis que si tel est le premier, l'autre n'est plus nécessaire. Il est impossible, en effet, que se poursuive à l'infini le moteur lui-même mu par autre chose, puisque des infinis, il n'est pas de premier. Si donc, tout ce qui est mu par quelque chose, et que le premier moteur soit mu, mais non par autre chose, nécessairement, il est mu par lui-même. Pour Aristote, ce premier est le premier moteur immobile. Il ne s'agit pas d'un principe, puisque l'ordre du devenir n'admet pas de principe, mais d'un premier, au-delà du devenir. Si un premier se situait dans le devenir, il serait lui-même précédé par un autre, car tout devenir implique un antécédent. Il faut donc quitter le devenir pour être premier. Et un premier ne se situe qu'au niveau de l'être. Il est l'un au-delà du multiple, sachant que le devenir implique toujours la multiplicité. Inhérent au devenir, le mouvement naturel est saisi par les sens de l'homme en tant que ce qui est mu, et, en premier lieu, par la cause propre du mouvement, la matière. C'est l'expérience fondamentale de l'homme face à l'univers physique, donc aussi face au vivant, et à ce vivant particulier qu'est le corps de l'homme. Séparer le mouvement naturel de la vie, c'est le couper de sa source, la nature. Donc le réduire à la pure matière, c'est-à-dire à la pure relativité, puis au relativisme. C'est l'erreur du positivisme, par la science moderne, de tomber dans le relativisme absolu en coupant ce qui est mu du mouvement et par conséquent de sa cause première, la nature matière. Donc la matière saisie dans sa potentialité foncière et dans sa relation à la forme, à la nature forme. Deuxièmement, les différents mouvements naturels. Le mouvement naturel se manifeste dans l'expérience à l'aide des sens, bien entendu, mais diversement. Aristote répond à cette question en se référant aux catégories. Que signifient ces catégories découvertes par Aristote ? Toute réalité se donne d'une manière descriptive à travers des attributions ou déterminations qui lui sont propres. Pour l'homme, elles sont au nombre de 10, appelées catégories ou prédicaments. Toute réalité existante est ainsi définie en premier lieu par son exister, son être, sa substance, puis en second lieu par sa manière d'être, ses accidents. La substance est ce qui se tient par soi, tandis que les accidents sont relatifs à la substance, donc à l'être. Qui dit relatif, dit en devenir, donc lié au mouvement. Il s'agit d'une invention d'Aristote. Citons un exemple et les attributions correspondantes. Pierre, substance première, est un homme, substance seconde. C'est l'exister de Pierre dans le genre homme. Cette réalité sera toujours Pierre, en tant qu'homme. C'est sa substance selon l'exister et le genre. Puis viennent les accidents relatifs à la substance. Il est intelligent, la qualité. Il pèse 80 kilos, la quantité. Il a des relations, la relation. Il est à tel endroit, le lieu. Tel jour et à telle heure, le temps. Sa position, il est assis, le situs. Il possède ses avoirs ou ses acquis, l'habitus. Il est capable d'agir, l'action. Il pâtit, la passion. La substance désigne le pourquoi, qui est l'exister du sujet lui-même. Puis la qualité, la quantité, la relation, le lieu ou le temps caractérisent le comment de la substance, ses manières d'être, son devenir lié au mouvement. Au livre 7 de la métaphysique, sa philosophie de l'être citée précédemment, Aristote définit ce qui est mu par le mouvement provenant de la matière. Inhérent à la matière qui est déterminée par la forme. Pour cela, il cite les catégories. Parmi les choses qui sont engendrées, les unes sont des productions de la nature, les autres de l'art, les autres du hasard. Tout ce qui devient, devient par quelque chose, de quelque chose, par ce quelque chose, j'entends ce qui devient suivant chaque catégorie, substance, quantité, qualité ou lieu. » Fin de citation. Ce qui est mu est sujet à des mouvements divers, qu'Aristote nous fait découvrir dans la physique. Appelons donc le mouvement selon la qualité « altération ». Le mouvement selon la quantité n'a pas de nom commun, mais est, suivant chacun des contraires, croissance et décroissance. La croissance allant vers la grandeur achevée, la décroissance partant de celle-ci. Le mouvement selon le lieu n'a de nom ni commun ni propre, mais appelons-le communément transport. Le changement vers le plus ou le moins, dans la même forme, est une altération. Fin de citation. Précisons ce que signifie l'altération, qui est une transformation progressive de la matière et de la forme selon la qualité en plus ou en moins. En philosophie, la qualité peut signifier la perfection comme dépréciation d'une réalité, ce qu'on désigne par le plus ou le moins. Perdre ses cheveux est une altération. L'érosion dans le bois, par la succession des contraires avec le chaud et le froid, le sec et l'humide, entraîne une érosion de la matière et une altération de la forme. Revenons à la physique d'Aristote au sujet de la qualité. Le fait que tout ce qui est altéré par les choses sensibles, et que l'altération existe seulement dans toutes ces choses qui sont dites être affectées par soi, par les choses sensibles, il faut l'étudier d'après ce qui suit. Plus que partout ailleurs, on pourrait supposer que c'est surtout dans les figures, dans les formes, dans les dispositions acquises et dans les acquisitions et les pertes de celles-ci que réside l'altération. Pas davantage. Les dispositions acquises, qu'elles soient du corps ou de l'âme, ne sont des altérations. En effet, les vertus et les vices font partie des dispositions acquises. Or, ni la vertu ni le vice n'est une altération, mais la vertu est un certain achèvement. Car c'est lorsque chaque chose a reçu sa vertu propre qu'on la dit achevée, puisqu'elle est alors le plus conforme à sa nature. Par exemple, un cercle est achevé quand il est devenu tout à fait cercle et le mieux possible. Et le vice est la destruction et l'abandon de cet état. Fin de citation. Autre mouvement. Le mouvement selon le lieu est désigné par le mouvement local. Par exemple, le mouvement naturel d'une pierre du haut vers le bas. Le mouvement du feu, du bas vers le haut. Nous pouvons citer le mouvement latéral de l'air, donc du vent. Il existe des mouvements propres au vivant. Le vivant qu'est la plante, le vivant qu'est l'animal, le vivant qu'est l'homme, dans sa vie végétative et sensible, en particulier la croissance, et son contraire, la décroissance ou la dégénérescence. Puis l'assimilation et la génération. Citons la physique d'Aristote à ce sujet. en posant que tout ce qui est mu est mu par quelque chose, et que ce quelque chose est soit immobile, soit mu, et si mu, soit par lui-même, soit toujours par autre chose, nous sommes arrivés à considérer que le principe des mus est parmi les mus ce qui se meut soi-même, et parmi toute chose ce qui est immobile. Et nous voyons aussi qu'existent manifestement des êtres tels qu'ils se meuvent eux-mêmes, comme le genre des vivants et celui des animaux. Il faut en fait considérer qu'ils se meuvent d'un seul mouvement et que ce n'est pas de façon souveraine, car la cause ne vient pas de l'animal lui-même, mais d'autres mouvements naturels existent en eux, dont ils ne sont pas mus par eux-mêmes, par exemple la croissance, la destruction, la respiration, dont est mu chaque animal alors qu'il est au repos et n'est pas mu de son propre mouvement. Et la cause en est ce qui l'entoure et de nombreuses choses qui y entrent. Par exemple, pour certains, la nourriture, car quand elle est digérée, il s'endorme, et quand elle a été répartie, il s'éveille et se met en mouvement. Le principe premier étant extérieur, raison pour laquelle ils ne sont pas mus toujours et de façon continue par eux-mêmes. En effet, le moteur est autre chose, lui-même mu, échangeant par rapport à chacun des êtres qui se meuvent eux-mêmes. Dans tout ceci, le premier moteur, c'est-à-dire la cause du fait de se mouvoir soi-même, est mu sous son propre effet, mais par accident, car le corps change de lieu, de sorte que c'est le cas aussi de ce qui se trouve dans le corps et qui se meut soi-même par son action de pousser. Fin de citation. À cette analyse d'Aristote sur les différents mouvements, il convient de retenir trois types de mouvements naturels. Le mouvement d'altération avec la qualité, le mouvement de génération avec la quantité et le mouvement local pour le lieu et le temps, avec la précision qu'Aristote apporte dans sa physique. Les êtres par nature ont tous manifestement en eux-mêmes un principe de mouvement et de repos, les uns selon le lieu, les autres selon la croissance et la décroissance, les autres encore selon l'altération. Du fait que la nature est un principe et une cause du mouvement et du repos pour ce dans quoi elle se trouve en premier, par soi et non par accident.